Fin février 2024 se prépare un peu partout en France, dans les fermes d'agriculteurs et agricultrices syndiquées à la Confédération Paysanne, le Salon à la Ferme, 4e édition. L'opération Le Salon à la Ferme a pour but de faire découvrir l'agriculture paysanne et montrer la réalité du métier de paysan et paysanne en ouvrant les portes des fermes loin des salons parisiens de l'agriculture. La thématique nationale de cette 4e édition était la souveraineté alimentaire, notion construite par le mouvement paysan et altermondialiste de la Via Campesina et régulièrement dévoyée aujourd'hui dans son contenu. Au moment où ce qu'on a appelé la crise agricole faisait sortir les tracteurs sur les autoroutes et les ronds-points, au moment où durant cette même crise agricole la France soutenait deux nouveaux accords de libre-échange au niveau européen, et au moment aussi où le syndicat agricole majoritaire, la FNSEA, jonglait avec les contradictions flagrantes et les réelles paroles de terrain, rattrapé dans son hégémonie apparente par les critiques de la Confédération paysanne mais aussi de la coordination rurale, bref, au moment où la question agricole n'avait jamais été aussi importante et pourtant si maltraitée par les élus hors sol du gouvernement, nous avions promené notre micro chez Alix, Lorraine et Jérôme, entre autres, à la ferme de la Micalier à Lautrec.
C'est bien ici. Moi, je suis Lorraine, la compagne de Jérôme.
Ok.
Et il doit être en bas, alors je ne sais pas où exactement. Mais... Et là-bas, il y a le moulin, il y a... Je suis la compagne de Jérôme.
C'est le petit.
Oui.
Et là-bas, je vous ai dit que c'était la ferme.
C'est un jour de pluie. Dans un climat déréglé, un dimanche un peu tristouné, où pourtant nous allons entendre des sourires, des passions et des idées.
Ça va ? Ça vient de commencer la pluie ou
la pluie, ben à l'instant.
Ben là, c'est ça, sur la route c'est pareil. Là.
Allez.
Et c'est Jérôme qui va parler.
Wanda. Là, c'est le four à pain, la boulangerie.
C'est un four. C'est quoi la structure de ce four? Parce que je vois qu'il y a un isolant autour, mais c'est quoi? Comment c'est foutu dedans?
Ça sent, hein, c'est surprise ça.
On verra tout à l'heure.
Ouais. Ouais, j'ai fini de semer le blé, tu vois, le semoir est resté là-bas. Et je crois qu'il y a même du blé à l'intérieur.
Tu as fini quand?
J'ai fini de semer en décembre. Moi. C'était trempe, on a eu du mal à tuer les graminées qui poussaient à l'automne. En fait, l'été a duré jusqu'au moment des semailles. Du coup, les graminées n'ont pas pu pousser. Et quand elles ont poussé, il fallait semer le blé. Il est très compliqué de semer, de tuer des graminées dans un sol en conditions humides. Donc ça a été délicat. Il a fallu aller très vite. On a eu juste 3 jours pour semer. Heureusement, il y avait mon fils qui m'a bien aidé. Et on n'a pas pu tuer toutes les graminées. Donc, quand on moissonnera le blé, le petit épeautre avec des adventices, des graines qu'il va falloir trier ensuite. Donc, le trieur est là derrière nous. De là. Là, nous sommes au lieu de stockage du grain.
Un silo, donc.
Il y a du petit épeautre, il y a du blé, il y a du seigle. Ailleurs, il y a d'autres silos de blé et le stock de lentilles et de pois chiches est en sac, un big bag ou un sac. Voilà, ça c'est un trieur Petcus de 1957. Qui servait aux organismes stockeurs à trier les graines qui venaient de chez les paysans avant qu'il y ait les désherbants et tout ça. Du coup, c'était primordial et c'était un très bon trieur pour l'époque. C'était très très bon. Et pour nous, il nous va super bien parce qu'on est revenu à l'agriculture des années 50 en fait. Et on sème, on a de l'herbe, après on est obligé de trier, de sortir ces mauvaises graines, de sortir un grain propre pour pouvoir ensuite le passer à la brosseuse ou le passer à la décortiqueuse pour le petit épeautre et ensuite le passer au moulin à strier pour l'ensemble des céréales. Le moulin à strier qui est derrière nous.
Avec du granit du Sidopre, j'imagine. Le moulin à
strier. C'est ça. Les frères à strier travaillaient dans la montagne noire et quand est-ce qu'ils ont conçu les moulins à strier, les premiers moulins à strier, quand est-ce qu'ils ont été faits? Les années 60
70,
ok.
Et c'était... Ils se sont inspirés des moulins qui étaient utilisés pendant la guerre, qui étaient dans les caves, parce que tout était réquisitionné, toutes les céréales et tout était réquisitionné, et certains avaient gardé des petits moulins cachés dans les caves pour pouvoir quand même faire leur propre farine. Et ils se sont inspirés de ces moulins-là et ils les ont... perfectionné, mais très simplement. C'est que des pièces qui se trouvent dans le commerce classique ou recyclées, des pièces d'automobiles qui sont recyclées. Ou,
oui, parce qu'ils faisaient de la mécanique, je crois.
Oui, ils étaient mécaniciens, les deux frères.
Et donc, ça respecte le germe, c'est ça, notamment la mouture?
Oui, ça permet de mixer intimement le germe avec l'amidon. Et ça, tout d'abord... Ça enlève le son par pellicule. Et ensuite, dans la bluterie, c'est trié. La farine passe par les mailles du tamis. Et ensuite, le son sort à la sortie. Et on peut choisir la quantité de son qu'on veut garder dans le pain, dans la farine.
Et ça s'écrit comment, en fait, moulin?
Astrier, c'est Astrier, le nom de ses deux frères, okay. André et Pierre. Astrier, A-S-T-R-I-E.
Okay. C'est pas un moulin avec des stries.
Alors, il est strié, justement, il y a des stries qui sont très particulières, okay. Qui permettent aux grains qui tombent au milieu d'être par la force centrifuge aussi, une petite aspiration, d'aller vers l'extérieur avec des stries plus profondes au centre et qui deviennent de plus en plus fines, à aller à quelques dixièmes de millimètre, je crois, sur les côtés. Ah, voilà un autre grain de blé. Le grain de blé, il est séparé par une fente au milieu du grain, et l'épeautre, non. Et l'épeautre a deux pellicules. La première part comme le blé à la moisson. Et la deuxième, il faut utiliser une décortiqueuse pour l'enlever, parce qu'elle est vraiment difficile à enlever. Et le grain d'épeautre n'a pas cette petite fente au milieu du grain.
L'épeautre, c'est comme une variété population, une variété ancienne
ouais. Le petit épeautre, c'est l'ancêtre du blé. Mmh. Et le grand épeautre est venu après. Et ensuite, il y a eu le blé avec les différents croisements.
Donc, ouais, c'est avec ces graines-là
un peu de blé.
Qu'on fait le pain.
Bon, on les passe au moulin pour faire la farine.
Nous, on n'a pas les graines, non. Nous, on achète ce que vous faites. C'est Alix qui le fait.
Voilà, nous allons trier du blé de variété ancienne. Semences paysannes de variétés anciennes qui nous permettent de l'autonomie, qui sont résistantes au sec, qui sont tolérantes à l'humidité, qui ne sont pas malades, quoi, qui montent très haut. Ce sont des variétés de blé qui montent à 2 mètres de haut, des fois, certaines années. Nous permet d'être autonome au niveau des semences. On sème nos propres semences, on les trie, on les ressème.
L'aspiration par rapport au blé, plus c'est léger, plus je baisse l'aspiration, et plus c'est lourd, plus je peux aspirer pour enlever encore des dernières graines, genre pour l'avoine. gobelets sont propres à nous, les vestes sont triées par le séparateur rotatif, elles sortent en bas. On enlève les vestes, la nielle, essentiellement. Et à la suite de ça, on va le passer à la brosse à blé.
On est toujours avec Alix et Jérôme de la ferme de la Micalier à Lautrec lors d'une journée porte ouverte Salon à la ferme organisée par la Confédération Paysanne du Tarn, une visite enregistrée le 25 février 2024.
Prochaine étape, je prends du blé. Je vais passer à la brosse à blé. Je vais allumer. Là, tu vois, on dépoussière le blé.
Là, tu vas faire quoi après de la poussière? Tu la remets
Je la mets dans les champs. Ouais. Il n'y a pas de maladie. Donc je le mets dans les champs.
Pas de caries,
Non, pas de caries. Il y en a très peu. Et on règle ça avec un petit peu de bouillie bordelaise quand on sème le blé. Et ça suffit.
Il y en a qui font
au vinaigre blanc.
Vinaigre blanc, ouais.
Ouais. C'est deux solutions qui s'offrent à nous et ça marche.
Tu le baignes dans un...
Non, je le mets en sec. Okay. Mais 100 grammes hectare, c'est rien. Et ça marche. Dose homéopathique.
Huit.
Là, on va pouvoir démarrer
le moulin.
C'est le blé brossé.
C'est le blé brossé.
Voilà. Dernière étape avant le pain. Et voilà, le génie des frères Astrier. Ils nous ont offert une belle machine.
Tu vois le blé ? Il est là.
Et là, donc, qui sort
Je sors le gros son qui va aux animaux, aux ruminants. Et ça aux volailles un peu. Il y a le petit son qui peut être réintégré à la farine.
Pour faire de la semi complète ?
Du pain complet, ouais.
Ça, c'est pas digeste par les humains, c'est ça
Alors, Alix va expliquer cela. Avec du pain au levain, le levain attaque le sang, commence à digérer et à disloquer les chaînes carbonées, ce qui permet une meilleure digestion. Si on n'utilise pas de levain, le sang n'est pas attaqué, n'est pas dégradé. Et du coup, il n'est pas digeste. Et le corps humain est obligé de puiser de l'énergie dans son corps pour pouvoir le digérer. Et ça entraîne des décalcifications. Donc, c'est pas très bon de manger du pain complet si ce n'est pas bio et si ce n'est pas au levain. Ben, les champs, c'est simple. Nous faisons pousser des céréales en association avec des légumineuses, luzerne, trèfle. Et les céréales poussent généralement après une lentille ou un pois chiche ou une parcelle d'ail. Dans notre rotation, il y a de l'ail et du blé, du petit épeautre, de la luzerne, du trèfle, de la lentille, du pois chiche. Donc on capte l'azote de l'air. On nourrit nos plantes, on nourrit le sol, et derrière, ça nous permet d'avoir des jolis blés. C'est l'autonomie. L'autonomie par l'azote de l'air. Marc Dufumier l'explique très bien dans ses documentaires, dans ses reportages. Et il l'explique très bien à ses élèves.
Toi, tu expérimentes ça depuis longtemps,
d'un moment maintenant, donc t'as du recul, tu vois.
Depuis que je suis passé en bio, j'avais commencé un peu avant. Et effectivement, on se passe assez facilement d'engrais. On se passe de produits chimiques, de pesticides très facilement. Il faut réaliser des rotations assez importantes. Il faut avoir un broyeur. Pour broyer les adventices, ne pas hésiter à nourrir le sol de tout ce qui pousse. Rien ne se jette en agriculture biologique. Tout se transforme, tout se recycle. On va au fournil. C'est parti.
Jérôme est paysan depuis 1992 et en bio depuis 2013. Alix a rejoint le projet en 2017 pour développer les ateliers meunerie et boulange. On va la suivre dans le cheminement de la farine jusqu'au pain.
Parce que pour eux, à la Syrie, ce sont des... C'est le four ? Comment il s'appelle ?
Un rocket stove. Voilà. Là, on distingue bien le foyer. La première combustion se fait dans la partie centrale et la seconde combustion se fait dans un tuyau qui est au fond. Donc on force les flammes à passer dans ce petit intervalle là-bas et combiné avec un second apport d'oxygène, l'intégralité des gaz qui sortent du bois prennent feu et vont chauffer le four qui est en dessus. Voilà.
C'est une combinaison entre un rocket stove et un poêle de masse. Donc on chauffe très vif, il faut que ça crache, il faut que ça chauffe très vite. Les gaz sortent à 1200 degrés, ils font tout le tour d'une cocotte métallique dans laquelle il y a les pierres pour cuire le pain. Et ensuite, l'out évacué par là-haut. Mais c'est la particularité de ce four, c'est le corps de chauffe. Et le fait qu'il a été autoconstruit. On a été une équipe de 5-6 là, où on a tous travaillé avec nos spécialités et nos affinités. Et on a créé ce four.
Une combustion très 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 complète.
Ouais. Et en plus, voilà, avec ce système-là et de double arrivée d'oxygène, ça permet d'avoir une combustion complète. Et normalement, il n'y a que de l'oxygène du CO2 et de l'eau qui sortent. Il n'y a plus, normalement, toutes les autres particules sont brûlées. Et je sors quasiment pas de cendres. Ça, c'est la quantité de cendres qu'il y avait sur la dernière chauffe. Donc c'est presque rien. C'est un demi-bac. Il y a 2 litres de cendre peut-être. Enfin, il y a un peu plus parce qu'il y a, là, il y a presque rien comme déchet. J'ai un autre avantage sur ce four, c'est que si je veux lancer une autre fournée, donc faire une nouvelle pâte et autres, je peux remettre du bois, remonter à température pour pouvoir lancer une autre fournée. On met à peu près 60 kg de pain par four. Donc là, on est dans le fournil. Enfin, c'était déjà une pièce qui était aménagée. On est sous la maison de Jérôme, en fait. C'était une pièce qu'ils utilisaient pour faire la transformation de l'ail. Il y a deux pièces côte à côte. Et on a recyclé cette pièce-là. Et la fenêtre est devenue... On a plaqué le four à l'extérieur pour que la fenêtre serve à l'enfournement, en fait. Donc on a agrandi la fenêtre et on a mis les portes d'enfournement à ce niveau-là. Donc je prépare les pâtes ici. Il y a deux pétrins, un pétrin mécanique où je fais les pâtes de blé, où je peux aller jusqu'à 30-35 kg de farine à peu près pour faire 50-60 kg de pain. Et ensuite, il y a un pétrin en bois qui est là. Et je fais le petit dépôt de l'enfant où je pétris à la main. En fait, c'est un vieux pétrin en bois qu'on a récupéré. On y a mis un couvercle. C'est très efficace.
C'est là-dedans que Alix, elle met la farine. Elle met l'eau et elle fabrique le pain.
Un petit pétrin. Peu de sel aussi. Mais c'est vrai qu'il y a que de la farine et il y a que de la farine et de l'eau dans le pain qu'on fait. Bon, et quelques graines quand c'est du pain aux graines. Mais on n'a pas d'autres des additifs particuliers.
Et
du sel, tu mets un tout petit peu de sel.
Qu'est-ce qui fait que ça l'est un peu?
Il y a du levain.
Il y a du levain.
Qui est fait avec de la farine et de l'eau.
Ah, okay. Donc c'est encore de la farine et oui, c'est un levain. Donc,
C'est encore de la farine et de l'eau. Voilà,
Et des levures naturelles.
Voilà, c'est naturel et des bactéries lactiques et des bactéries acétiques. Le levain hein, sauvage, entre guillemets, hein, c'est un mélange de bactéries et de levures.
Il faut le nourrir tous les combien pour tous les jours
Alors, ce que je fais, c'est je garde un bout de pâte de la fournée qui est en cours, que je laisse sécher dans une terrine. Enfin, d'ailleurs, deux, parce que je prends un peu d'épeautre et un peu de blé. Et je laisse sécher. Et la veille de la fournée, je rafraîchis, on appelle ça. Je rajoute un peu d'eau et un peu de farine. Et toutes les 4 heures à peu près, je remets de l'eau et de la farine et je grossis ce levain qui va servir ensuite à la pâte à pain.
Et lui, il faut qu'il reste dans un milieu...
Il faut que ce soit tempéré, ouais. c'est bien, il aime bien le vin, 22 degrés. Moi aussi, donc ça tombe bien. C'est ça qui fait gonfler le pain.
On est toujours avec Alix et Jérôme de la ferme de la Micalier à Lautrec lors d'une journée porte ouverte, salon à la ferme, organisée par la Confédération Paysanne du Tarn, une visite enregistrée le 25 février 2024.
Et est-ce que tu as des difficultés à faire lever des blés population, des choses je sais pas, tu vois, on parle de petit blé pauvre, mais le blé, qu'est-ce que...
Ouais, c'est pareil, c'est un mélange de blé paysan, on va dire, ou de blé ancien, comme on peut entendre aussi.
Il y en a plus ou moins, j'imagine.
Il y a des farines qui ont plus ou moins de force, hein, et nous, on a un mélange qui est assez équilibré, et qui fait que le pain lève assez bien. Ensuite, on peut jouer un peu sur l'hydratation, ou si vraiment la pâte est trop coulante, il n'y a pas assez de force, hein, on fait un petit peu plus de moulé, voilà, où on enfourne beaucoup plus vite. Et il y a moins de temps de mise en forme. Ouais. Voilà. Et donc le four est là. Il y a deux sols. J'essaie d'expliquer tout à l'heure. Il y a deux sols l'une au-dessus de l'autre. Dans le projet de four, on se demandait... Enfin, on voulait créer un four, et donc moi j'avais bossé sur un four type chevet, et puis j'avais vu d'autres grands fours aussi chez d'autres paysans boulangers. Et donc j'ai dit, y a ça qui m'intéresse, ça me plaît, ça c'est pratique, ça c'est moins pratique, et voilà. Donc dans ces fours chevet, les sols normalement sont tournés manuellement, avec une roue qui est à l'avant des portes. Et on tourne les sols à peu près tous les 10 minutes, tous les quarts d'heure pendant la chauffe et pendant la cuisson pour permettre d'avoir une homogénéité. Et il suffit qu'on soit pris par une pâte ou par autre chose et on oublie de tourner. Donc il y a un côté qui est parfois un petit peu plus chaud, un autre un peu plus froid. Et donc moi j'ai demandé à ce que ce soit automatisé. Et donc dans l'équipe, il y avait des copains qui adorent faire de l'électronique et tout ça. Donc on a Pasquale, entre autres, voilà. Et qui a imaginé ça, et on a mis ça sur une alim de PC au départ, parce que ça n'a pas besoin de beaucoup de puissance, vu que les rouages, ce qui maintient les sols, c'est très efficace, et donc il y a 600 kg de sol à faire tourner, mais seulement avec une alim à 12 volts, on n avait pas de problème pour faire tourner. Et donc on est passé sur une batterie et un petit panneau solaire. Donc maintenant ça marche sans courant électrique. Donc pour faire tourner, c'est sous le four, il y a un petit moteur qui est un moteur de fauteuil roulant qui a été détourné et un démultiplicateur de vitesse pour pouvoir avoir une vitesse très lente pendant la chauffe et pendant la cuisson. Et ça permet d'enfourner... régulièrement, je peux régler la vitesse parce qu'il y a un variateur de vitesse aussi.
Et les sols, c'est quoi? C'est de la roche, de la pierre?
C'est des...
C'est des briques réfractaires. Hein,
voilà, c'est des briques réfractaires de chez Fontes à Revel. on a choisi l'épaisseur 5, donc il y a un peu plus de temps pour chauffer le four. Mais ensuite, ça reste chaud plus longtemps et ça restitue bien au pain. Quand on met la pâte à pain dans le four, la température est très chaude, mais pour l'intérieur du pain, ça reste très confortable et ça monte graduellement. Et donc, les levures et les bactéries sont très contentes et elles se disent « Ah tiens, il fait bon ici, donc on se développe. » Et elles se développent de plus en plus et elles produisent beaucoup plus de gaz. Et si on n'a pas d'ouverture, ça va craquer. De toute façon, un pain va craquer à un endroit ou à un autre pour évacuer toutes ces poches de gaz. Et ensuite, quand la température est trop chaude, ces micro-organismes meurent et la chaleur va faire croûter le pain et va terminer la surface du pain d'une manière dure, quoi. Enfin, ça va durcir l'extérieur. La chaleur va durcir l'extérieur du pain.
Et le gaz, c'est du gaz carbonique ?
Ouais, produit par les levures et les bactéries. Ouais.
Mais c'est pas chaud, on peut pas créer.
Et elle produit soit de l'acide lactique, soit de l'acide acétique.
Ouais.
Pour ça qu'un levain qui est un peu plus ancien a un peu un goût de vinaigre, ouais. un petit peu plus fort. Et un autre levain, parfois je sens les levains et ça sent le yaourt. Le yaourt,
ouais.
Parce qu'il y a des bactéries lactiques au départ qui ont travaillé un petit peu plus et ça a cette odeur de...
C'est
de
le papier de...
Le lait. Ouais, et on pétrit pas beaucoup les blés anciens. On les pétrit pas beaucoup pour pas abîmer le réseau de gluten. Donc on pétrit un petit peu pour qu'il y en ait qui se créent, mais on pétrit pas trop pour éviter qu'ils se déchirent et ensuite qu'ils laissent passer les gaz ou qu'ils aient pas de tenue ensuite dans le four. Donc on pétrit pas longtemps. Le pétrin électrique, je l'utilise surtout pour mélanger l'eau, la farine et le levain. Pour que juste qu'il n'y ait plus de traces de farine. Mais je pétris très très peu. Dans les boulangeries, ils pétrissent minimum 10 minutes la pâte après avoir mélangé, mélangé la farine, l'eau et la levure de boulanger. Ils pétrissent pendant au moins 10 minutes à juste mélanger la pâte pour lui donner plus de force et parce que les blés supportent des conditions mécaniques très, très, très brutales. Dans la région, il y a une formation à Gaillac qui forme des paysans boulangers. Elle est en lien avec la formation de paysans maraîchers. Il y a un tronc commun et ensuite les maraîchers voient certaines parties de cours et les boulangers en voient une autre partie. Voilà, ça permet d'avoir un diplôme agricole. Si on veut s'installer, c'est un indispensable. Ouais.
C'est type CAP ou
BPREA. Un BPREA, brevet professionnel de responsable exploitation agricole.
Donc on ne s'improvise pas paysan boulanger. On ne s'improvise pas, ça demande une formation, une qualification.
C'est bien d'avoir une formation,
oui,
ça
oui.
permet de, de voir...
De
voir un petit peu de théorique et surtout de se faire un réseau. Et ça, c'est assez important. En tout cas, c'était le cas pour moi.
Il n'y a pas toujours un problème entre le statut paysan-boulanger, entre l'artisan et paysan ? Il me semble qu'il y a toujours...
Ah, il y a une petite guéguerre. Les artisans ne reconnaissent pas les paysans-boulangers. mais voilà, petit à petit, on est accepté. À la fête du pain, il y a... 5 ans, il y a le bureau de l'association qui a changé. Jusque-là, c'était tenu par des boulangers traditionnels et artisans boulangers. Et avec Jérôme, on a dit, ben voilà, c'est quand même Lautrec, c'est quand même la fête du pain. C'est chouette si on peut s'investir. Surtout que lui, s'était déjà investi dans l'association de nombreuses années. Et donc on a essayé d'avoir une place. Il y avait 6 places de boulanger sur la place centrale. Donc ça a été très compliqué déjà d'avoir une place parce qu'ils ne reconnaissaient pas notre métier. Et puis quand ils ont vu que c'était moi qui faisais le pain, en tant que femme, c'était aussi difficile à avaler. Et maintenant, on a notre place attitrée. Enfin voilà, il n'y a pas de problème, on est reconnus et on est arrivé à... Il y a l'école de Brins qui était venue aussi, avec des étudiants qui avaient permis de faire une animation avec les enfants, avec un four à bois déplaçable. Donc voilà, ça avait permis aussi de faire connaître hein, et de dédramatiser, parce que voilà, c'est quand ça fait peur quand on ne connaît pas. Comme toute chose, le fait d'en parler. Et de...
Ça permet de corriger la vision qu'ils avaient, effectivement.
Tout à fait.
C'était quoi les a priori que c'est quoi, c'est un truc de hippie de faire du pain à la ferme?
Non, mais on leur vole. Eux, ils sont artisans, donc ils ont des charges, entre autres. Ils dépendent de la chambre des métiers. Et ils ont des charges qui sont différentes de celles des paysans. Mais on ne fait pas le même pain, on n'a pas tout à fait les mêmes
c'est pas la même
clients.
Approche.
C'est pas la même approche. C'est pas la même approche non plus. Oui, il y a ça aussi, comme les médecins qui ont leur ordre. Et voilà, sorti de cet ordre, on ne reconnaît pas les pratiques de médecine traditionnelle qui sont pourtant anciennes et reconnues dans beaucoup de pays. Enfin,
la chaîne n'est pas la même.
Ouais, voilà. Et le fait de faire de la boulangerie, enfin, ou de transformer, c'est vraiment de la transformation sur des fermes et de la valorisation de nos productions. Et ça a permis de sauver pas mal de fermes, en tout cas quand les frères Astrier ont créé leur moulin Astrier, parce que pour 8-10 000 euros, on peut avoir un moulin qui permet de fabriquer de la farine. Au lieu de vendre le blé à la coopérative, on transforme sa propre production, on vend de la farine. Qu'on peut vendre tel quel ou transformer derrière en pain ou en gâteau derrière, et ça permet de générer un meilleur revenu que le blé à la tonne vendu à la coopérative. Hein.
C'est vite absorbé, l'investissement du blé.
Tout à fait.
C'est quoi, faire la tonne d'échelle c'est une généralité ou ça dépend, c'est à partir de...
Ah non, c'est depuis que les moulins, que les astriers fabriquent des moulins, ça a permis à beaucoup de fermes de s'en sortir. Parce que ça devenait très très compliqué avec les prix qui baissaient, avec les charges qui augmentaient. Comme un éleveur qui va traire ses animaux et fabriquer du fromage. Ça lui permet de transformer sa propre production et de valoriser sa production.
Et de garder la main sur ses prix. Quoi.
Et de garder aussi, parce qu'on est en vente directe du coup. Alors qu'en passant par la coopérative, on dépend du cours de la bourse.
Mais par contre, il faut arriver à capter la clientèle.
Oui, mais il y en a, vous êtes tous là. À nous soutenir.
Ça,
et
pas tous, là.
Nous allons prier des musées qui sont anciennes. Ce sont des paysans, nous avons les anciennes. Pour
quand sont arrivés les engrais chimiques, les sols français avaient un taux de matière organique de 4, 5, 6. Actuellement, les céréaliers ont des taux de matière organique de 1, 1,2. Le sol est cliniquement mort. Donc il se déstructure. Les engrais chimiques et les pesticides déstructurent le sol. Du coup, dès qu'il pleut, le sol finit au ruisseau. La terre s'en va, l'argile s'en va. L'argile s'en va, le calcaire s'en va en labourant. Et ils sont obligés sans cesse de travailler le sol, de recréer artificiellement une structure et de mettre des engrais chimiques et de corriger le déséquilibre du sol par les pesticides. Donc ils ont tout faux. Les énergies vont être de plus en plus chères, les engrais de plus en plus chers, les pesticides de plus en plus chers. Donc leur agriculture est à bout de souffle. Et quand je vois les dirigeants de la FNSEA se comporter comme ils se comportent, et je me dis que c'est irresponsable au minima et c'est criminel. Voilà. On a toutes les solutions pour produire actuellement. Je parlais de marque du fumier tout à l'heure. Cet ingénieur agronome et professeur à AgroParisTech connaît toutes les solutions, il les explique, lisez, informez-vous si vous voulez savoir. Et toutes les solutions sont connues, à nous de les mettre en œuvre. Et aux consommateurs aussi, à acheter à ceux-là qui mettent en œuvre ces solutions. Et cesser d'acheter les produits industriels qui sont faits avec du pétrole, quoi.
Merci à Lorraine, Alix, Jérôme et les autres pour cette visite partagée dans la ferme de la Micalier à Lautrec. C'était un reportage réalisé le 25 février 2024 lors du salon à la ferme organisé par la Confédération paysanne. Alicia Tsi.